Retrouvez dès à présent la chronique de Sarah Kalenia, avocate en droit de l'homme, qui nous fait un focus sur l'actualité internationale.
Bonjour Sybille et bonjour à tous. Dans mes dernières chroniques, on s'est un peu éloigné de mon sujet de prédilection, à savoir le droit international. Et le but de cette chronique, c'est aussi de vous donner les bonnes clés de compréhension des enjeux du moment. Oui, parce que depuis un an, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que tout mon entourage est diplômé en sciences politiques, a un diplôme d'Harvard en droit international humanitaire, que tout le monde connaît la différence entre la CIJ et la CPI, et que tout le monde peut m'expliquer le principe de compétence universelle. Vous l'avez compris, avec mon propos qui ne manque pas d'ironie, depuis le 7 octobre, j'ai l'impression que tout le monde sait tout sur tout. Qu'à cela ne tienne, on va remédier à tout ça, et dans mes prochaines chroniques, je vais tâcher de vous expliquer au mieux le fonctionnement de nos institutions judiciaires ou des concepts de droit, pour que, à votre tour, vous puissiez dire justement « je sais tout sur tout ». Et ça tombe bien, parce que je vais aujourd'hui vous parler de l'institution la moins connue du monde. Je vais vous parler bien évidemment de l'ONU, et je vais vous parler d'un organe spécifique de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, vous savez, c'est ce conseil qui, depuis le 7 octobre, nous a pondu des dizaines de résolutions sur Israël, mais qui n'a jamais été fichu d'en émettre une sur la Chine, la Turquie ou même l'Arabie Saoudite. Vous savez, ces pays qui sont des paradis pour les droits de l'homme. Ce même conseil qui a élu pour 2025 le Qatar comme membre officiel. Encore un pays où, en tant que personne LGBT, migrante ou même femme, il fait très bon vivre. Alors, on va essayer de comprendre justement comment fonctionne ce conseil pour mieux comprendre ses prises de décision. Déjà, à quoi sert-il ? Le Conseil des droits de l'homme est un organe de l'ONU qui réunit des délégations de plusieurs pays membres des Nations Unies. Son objectif est de traiter toutes les situations de violation des droits de l'homme dans le monde, de veiller à la protection de ces droits et de formuler des recommandations à ce sujet. En gros, on a ces enquêteurs qui vont aller enquêter sur chaque pays, analyser la situation des droits de l'homme et dire « ce que vous faites, c'est très bien », bon, ça il ne le dit jamais, ou plutôt « ce que vous faites, ce n'est pas bien ». Ça par contre, il le dit tout le temps. Ensuite, le Conseil repart avec son petit rapport sous le bras, tout content. Et c'est au pays qui vient d'être contrôlé de régler ses propres problèmes. Enfin, ça, c'est si le pays a envie. Parce que se passe-t-il si vous ne respectez pas les recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ? Eh bien, rien. Comme un peu pour tout à l'ONU, j'ai envie de vous dire. On va vous taper un peu sur les doigts, on vous dira que ce que vous faites, c'est pas bien, et puis c'est tout. Et puis, si comme le Qatar, vous aimez bien revendre des migrants sur le marché noir et les tuer au travail, vous pourrez même avoir la chance d'être élu au Conseil des droits de l'homme. L'ONU, c'est formidable. Alors, justement, comment est composé ce Conseil ? Le Conseil est composé de 47 États membres qui sont élus au scrutin secret et à la majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et quand ils élisent un pays, les États doivent choisir les meilleurs élèves, c'est-à-dire ceux qui respectent le mieux les droits de l'homme. Et là, vous allez me dire, mais alors, comment en 2019 la Chine a pu être élue ? Ou la Libye en 2022 ? Ou le Qatar pour 2025 ? C'est bien simple, parce que le Conseil doit respecter trois règles. La première, c'est que le Conseil doit être composé en fonction d'une répartition géographique équitable. Tous les membres de l'ONU sont divisés en 5 groupes et dans chaque groupe, il ne faut pas que l'on dépasse un nombre de sièges attribués. Pour le groupe des États africains, c'est 13 sièges. 13 sièges également pour le groupe des États d'Asie-Pacifique. 8 sièges pour le groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, 7 pour les pays d'Europe occidentale et 6 sièges pour les pays d'Europe de l'Est. On va prendre un exemple. Imaginons qu'en 2024, dans le groupe Amérique latine, qui doit être composé de 8 sièges, on avait eu la candidature de 9 pays. Et bien c'est bien simple, l'Assemblée générale a voté et a décidé d'en éliminer un sur les 8. La deuxième règle est qu'il y a un nombre de mandats limité. Les membres du Conseil exercent un mandat de 3 ans et ne peuvent pas enchaîner plus de 2 mandats consécutifs. Imaginons par exemple que dans le groupe Asie-Pacifique, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont les meilleurs pays respectueux des droits de l'homme dans ce groupe, ont tous déjà fait 2 mandats consécutifs. Ils ne peuvent pas se présenter à la nouvelle élection et devront donc attendre la prochaine. Ce qui fait qu'on peut se retrouver un peu avec ce qu'il reste, quoi, les fonds de tiroir, en l'occurrence le Qatar ou l'Afghanistan, parce qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, la troisième règle est que pour être élu, il faut que le pays présente sa candidature. Sauf que ça coûte cher d'être membre du Conseil des droits de l'homme. Il faut envoyer du personnel, le former, pourvoir à son hébergement, ses frais. Et puis aussi, certains ne présentent pas leur candidature parce que, tout simplement, les droits de l'homme, ils s'en fichent un peu. Bref, toutes ces règles qui, à la base, instaurent un fonctionnement démocratique, font qu'au final, cela laisse la place à des pays qui ne sont absolument pas respectueux des droits de l'homme. Et à ce titre, je vais vous donner un chiffre, 64%. 64%, c'est le pourcentage de pays antidémocratiques qui sont actuellement membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça veut dire que dans le Conseil, 64% de ses membres sont des pays comme l'Égypte, Cuba, le Pakistan ou la Russie, qui ne sont pas des pays démocratiques. En termes de représentativité, en gros, la part que prennent les pays non démocratiques au Conseil est plus élevée que la part qu'ils représentent dans le reste du monde. Ça veut dire en gros que le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme est moins démocratique que le reste du monde. Un peu ironique, vous en conviendrez, comme représentativité pour une institution qui est censée défendre les droits de l'homme. Je ne sais pas, c'est comme si l'ONU avait décidé de nommer l'Arabie Saoudite à la Commission des droits de la femme. Ah, on me dit que ça a été fait pour la session de 2025. Bon, un autre exemple. Bon, c'est comme si l'ONU avait décidé de nommer l'Iran à la présidence du Forum des droits de l'homme. On me dit aussi que c'était le cas en 2023. Bon, vous m'aidez pas beaucoup là. Vous avez compris, il ne suffit pas d'être un bon élève pour être élu au Conseil des droits de l'homme. Simplement d'avoir les bonnes alliances et d'apprendre à fermer les yeux sur les malheurs de notre peuple, tout ça pour avoir le droit de condamner les autres. Comme quoi, le Conseil des droits de l'homme n'a d'homme que ceux qui le dirigent pour leurs propres intérêts et de droit que ceux qu'on veut faire appliquer aux autres, mais pas à soi-même.